Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour ce 18 mars 2026. Nous sommes de retour de vacances. J'ai même eu un client qui m'a dit « Est-ce que vous allez revenir avec vos balados? » Alors, bonjour Martin.
Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde.
Et la réponse à la question, c'était absolument.
Absolument. On est là. On n'abandonne pas.
Exactement. Donc, entre le temps qu'on est parti en vacances et aujourd'hui, il y a évidemment toute une différence de ce qui se passe autour du monde, surtout en Moyen-Orient. Quels sont les développements qui ont retenu ton attention?
Bien, évidemment, les événements au Moyen-Orient retiennent l'attention. Ça a amené beaucoup de stress sur les marchés. On a eu un prix du pétrole qui a augmenté beaucoup. On a eu des marchés qui ont été un peu plus volatiles. On l'a vu. Qu'est-ce que ça l'a donné? Donc, durant le mois de mars, donc, la perception, c'est que les bourses là, sont très, très volatiles présentement. Mettons les choses dans le contexte. Là, le TSX pour le mois de mars est en baisse de 4 %. Donc, on demeure là à l'intérieur d'une fluctuation normale de marché, sans égard à quel événement crée la fluctuation. Une baisse de 4-5 %, là, c'est quand même assez normal et fréquent, et ça arrive même plusieurs fois par année. Le S&P 500 est en baisse de 2,4 %. Le Nasdaq, 0,8 %. Le Nasdaq est quand même en baisse de 3,3 depuis le début de l'année. Là. Donc déjà en début d'année, les titres de technologie performaient moins bien que les autres secteurs. Donc quand on regarde, là, le S&P 500 depuis le début de l'année est en baisse de 1,9, le Nasdaq 3,3. Alors même si à court terme, le Nasdaq a mieux fait, depuis le début de l'année, c'est un petit peu plus dur du côté de la technologie. Du côté des titres européens, asiatiques, là, quand on suit le MSCI, Europe, Australie, Asie, on est en baisse de 6 % pour le mois de mars, là, le mois à jour. Depuis le début de l'année, on demeure en hausse de 2,3. Donc, c'est des marchés qui allaient très, très bien. C'est par contre des marchés qui sont plus sensibles aux fluctuations du prix du pétrole. Donc, en Amérique du Nord, là, les États-Unis, c'est un pays producteur net exportateur de pétrole. Donc, moins affecté quand le prix du pétrole augmente. Là. Les consommateurs à la pompe le sont, là, mais le pays lui-même, moins. Des pays comme le Japon, l'Europe, tu sais, ils produisent rien. Là. Donc, dès que le prix augmente, c'est un choc sur leur économie. Ça explique pourquoi le marché a baissé un petit peu plus. Au niveau des taux d'intérêt, ben, on a eu une rehausse. Là. Donc, les taux d'intérêt des obligations du Canada 10 ans, on était à la fin février à 3,13. On est remonté à 3,38. Pourquoi? Ben, les hausses de prix de pétrole, on va en parler un petit peu plus loin, là, mais la hausse du prix du pétrole fait que les craintes d'inflation augmentent un petit peu. Et parlant d'inflation, ben, on a eu des indicateurs aux États-Unis. Le core PC, le personal consumer expenditure, donc les dépenses de consommation, qui est la mesure favorite de la Réserve fédérale pour déterminer les taux, on demeure en hausse à 3,1 année sur année. Tu sais, 3 % c'est trop élevé pour la Réserve fédérale. Donc aujourd'hui, la Réserve fédérale va annoncer sa politique monétaire. 100 % de probabilité qu'il n'y a aucune baisse de taux. Là. On va rester tel quel. On a eu aussi, bon, on pourrait s'attendre là, dans des périodes plus volatiles que l'or performe. Ça n'a pas été le cas. On est passé de 5400 à la fin février à 4995, donc 5000, là, quand même 7-8 % de baisse sur l'or. On revient au TSX, ça explique pourquoi le TSX a baissé plus que les autres marchés. Là. Notre secteur orifère qui a fortement contribué l'année passée, là, cette année ça va un petit peu moins bien. Le pétrole évidemment a augmenté, on va en reparler un petit peu plus. Donc c'est un petit peu ça, il faut, en général, on demeure à 3-4 % des sommets historiques. Donc c'est quand même des marchés, c'est pas une bonne période, mais on demeure quand même dans une situation qui est enviable si on regarde les rendements réalisés dans les 2-3 dernières années.
Ben, merci beaucoup, Martin. Effectivement, les derniers jours, dernières semaines ont été mouvementés. On était en vacances, mais on n'est jamais loin des nouvelles. C'est surtout le drame humain qui impacte, qui nous impacte tous, hein, psychologiquement, puis on l'a suivi de nos vacances. Par contre, aujourd'hui, on va prendre un pas de recul, puis on va analyser ensemble les impacts réels sur les marchés,
ouais.
et surtout expliquer comment nos portefeuilles ils sont positionnés pour traverser ce type d'environnement. Donc, tu as comme répondu à la question, mais je pense que tu as d'autres choses à dire. On va commencer par la base. On voit de la volatilité depuis quelques jours, mais est-ce que la situation nécessite de paniquer?
Puis là, on a un indicateur très concret de la peur du marché. Ça s'appelle l'indice VIX. L'indice VIX, sans rentrer trop dans la technicalité, là, c'est un indice qui mesure la volatilité anticipée sur les contrats d'options sur le marché. Donc, c'est vraiment là, une perception des investisseurs face à la volatilité future. Donc, en temps normal, quand tout va bien, il n'y a pas d'événement, là, on a les pieds sur le pouf, la vie est belle, le VIX se transige autour de 15. Okay? Donc, c'est un indice de peur. Donc, plus le VIX augmente, plus la peur, elle est élevée. Puis, généralement, quand le VIX augmente, le marché baisse. Donc, le VIX, normalement, autour de 15. Pour vous donner une idée, durant la COVID, donc, tu sais, peur extrême, on est monté à 85. En 2008, durant la crise financière, encore plus peur, 95. Donc, tu sais, des niveaux, là, on part de 15, on monte à 95, là, on est comme 7 fois plus élevé. En avril 2025, la libération de Trump, où on a eu quand même un marché qui a brassé pas mal, on est monté quand même à 60. Donc, tu sais, pas dans les mêmes niveaux que les crises précédentes, mais à un niveau de peur assez élevé. Le 9 mars, donc au tout début là, des récentes attaques sur l'Iran, on est monté à 35. Fait que, on est loin des niveaux là, de crise extrême. Aujourd'hui, au moment où on enregistre, on est à 21,5. Donc, on n'a pas les pieds sur le pouf, on n'est pas à 15, on n'est pas tranquille, mais on est loin des niveaux extrêmes de peur. Donc, le marché demeure quand même très rationnel. C'est évidemment le drame humain, tu l'as mentionné, il y a des gens qui reçoivent des bombes sur la tête, puis nos pensées sont avec eux d'un point de vue financier pour l'instant, hein, puis je dis bien pour l'instant parce qu'on ne connaît pas les événements futurs, pour l'instant le marché réagit de façon très rationnelle à des événements géopolitiques qui sont somme toute contenus.
Bien, puis c'est vrai qu'est-ce que tu dis, Martin, la situation est très changeante et notre but vraiment c'est d'être avec nos clients à chaque pas à travers cette situation-là. On a un peu trouvé les vacances difficiles parce qu'on ne pouvait pas être en train de faire notre balado. En tout cas, moi, je l'ai trouvé.
Ça aurait été un moment propice, oui. Malheureusement, de la Jamaïque, ce n'était pas possible.
C'est ça, exactement. Parlons d'inflation maintenant. Ouais. L'énergie, c'est sûr, c'est la première inquiétude des investisseurs, des consommateurs en ce moment. Est-ce qu'on doit s'attendre à une poussée inflationniste importante?
Bien, on va couper ta question en deux. Poussée inflationniste, oui, importante, ben peut-être pas, tu sais. Le pétrole, il y a du pétrole dans tout. Hein. Quand vous achetez des tomates à l'épicerie, là, il y a un tracteur qui les a ramassées. Donc, dans le prix des tomates, il y a du pétrole. Donc, c'est une image là, pour refléter que si le prix du pétrole demeure élevé, donc là, il est présentement un peu plus élevé, on est passé de 68 à peu près le baril de West Texas Intermediate juste avant là, les événements à la fin de février. On est à 95 à peu près présentement. Donc, c'est une hausse importante. Bon, si ça dure pendant 2, 3, 4 mois, bon, on a un petit choc. On va mesurer l'inflation dans les prochains 12 mois, ça va être un peu plus élevé à cause de ça. Puis là, ben, en mars 2027, quand on va mesurer l'inflation par rapport au pétrole de cette année, ben, on va dire, ah, peut-être ça va rebaisser, puis ça va être correct. Donc, poussée inflationniste, ce que ça va certainement faire, c'est empêcher les banques centrales de baisser les taux. Donc, tu sais, Trump qui souhaite fortement que les taux baissent, ben, c'est sûr que dans la position de la Réserve fédérale avec une inflation autour de 3,1, c'est difficile, puis des risques inflationnistes en raison du pétrole, c'est difficile de voir la Banque centrale baisser les taux davantage. Donc,
Ouais, super, merci Martin. Et pour nos portefeuilles, et ça j'ai eu la question à plusieurs reprises depuis notre retour, est-ce que vous avez fait des ajustements? Est-ce qu'on doit faire des ajustements rapides? La réalité, c'est qu'on était déjà positionné en réalité. Peux-tu en parler plus longuement?
Ouais, donc quand les changements drastiques à un portefeuille sont nécessaires quand la situation personnelle et les objectifs du client changent. Les événements externes, comme tu sais, aussi drastiques que ça peut être comme une guerre, les mouvements boursiers ne devraient pas avoir d'impact significatif sur votre composition du portefeuille, puisque vos objectifs de placement demeurent les mêmes. Donc, la réponse courte, c'est non, on n'a rien fait de drastique. Ceci dit, ce n'est pas tous les titres qui fluctuent de la même façon. Donc, quand on a des marchés comme ceux-ci, on peut subir et patienter, puis c'est déjà très bien de juste faire ça. On peut aussi en profiter pour rééquilibrer. Donc, il y a certains titres qui ont mieux fait que d'autres. Il y a certains titres qui ont baissé plus que d'autres. Donc, quand on revient à nos cibles, puis on dit, ben, mais moi, je veux avoir 2% dans chacun des actions, par exemple. Bon, il y en a peut-être une qui est rendue à 3 parce qu'elle a monté, puis une autre qui est à 1 parce que ça l'a plus baissé. Donc, c'est de rééquilibrer. Et ces gestes de rééquilibrage-là, c'est ce qui crée de la valeur à long terme. Ça nous force un petit peu avant d'élever quand le marché, à court terme augmente plus que prévu, puis à acheter à rabais quand il y a des titres qui ont baissé.
Puis quand je dis qu'on était bien positionné, en réalité, on est très bien diversifié. On est diversifié du côté géographique, côté secteur, pas d'excès de conviction, toutes les choses qu'on a répétées depuis plusieurs
On
balados.
répète toujours que notre première conviction, c'est qu'on n'a aucune idée ce que la bourse va faire à court ou moyen terme, right? Donc, l'important, c'est d'avoir un portefeuille qui est toujours prêt à affronter ces crises-là et non pas qui nécessite de réagir face à ces crises-là.
Et comme toujours, puis tu l'as mentionné un peu dans ta réponse, les phases de volatilité peuvent créer des occasions d'investissement. Qu'est-ce que tu observes de ce côté-là?
Exact. Donc, on a mentionné, bon, les secteurs technologiques qui ont plus baissé, là, sans refaire de recommandations, là, par exemple, un Microsoft qui a baissé de 25-30%, tu sais, ah, ben, si j'en ai moins que je veux, c'est peut-être l'opportunité d'en acheter si j'en avais pas encore. Tu sais, ça peut être ce genre de choses-là, de constater que certains titres demeurent quand même très attrayants, puis de les intégrer au portefeuille. Ce que je veux surtout faire, bon, qu'est-ce qui arrive quand la guerre éclate? Bon, les secteurs de l'énergie augmentent, les titres de défense augmentent. Et là, ben, la tentation est facile de dire, ah ben, je vais aller là-dedans, tu sais. Ben, c'est reflété un peu, hein? Donc, il faut faire attention, là, justement, de pas trop réagir. Donc, c'est vraiment de rééquilibrer le portefeuille, de maintenir, de revenir à vous. Qu'est-ce que vous contrôlez? Vous contrôlez vous-même vos propres objectifs. Quelle est votre situation? S'il n'y a pas de changement dans votre situation, portefeuille, là, vous ne devriez pas vraiment jouer dedans.
Bien, puis on est toujours très prudent dans le sens où on a déjà prévu les prochains retraits faire, exemple. Donc ça, c'est mis de côté pour l'année. Donc peu importe qu'est-ce qui arrive avec le marché, il y a de l'argent de côté pour les besoins court terme. Puis si vous avez communiqué vos besoins court terme ou on les a décelés, on a déjà mis de l'argent de côté. Alors on va pouvoir sortir cet argent-là sans crainte avec qu'est-ce qui se passe avec le marché. Et Martin et moi, dans des périodes de volatilité comme ça, on revient toujours à notre discipline et notre processus de gestion de portefeuille. Dernier point avant nos cas pratiques, les fondamentaux du marché. Est-ce que les bases demeurent solides malgré l'incertitude?
Ben pour l'instant, oui. Puis, tu sais, faisons exception là, des événements. Là, si je regarde juste la bourse, en fait, elle est même plus attrayante en quelque sorte parce que le fait que le marché a baissé un petit peu, les estimés de profit du S&P 500, là, entre-temps, ils ont augmenté. Donc, les bénéfices des entreprises continuent de bien faire. On s'attend à une croissance des bénéfices en 2026. Du moins, le marché est en hausse, alors que le ratio cours-bénéfice a légèrement baissé. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, ah, le marché est cher, on était à 22, 23 fois les profits, on est redescendu un petit peu plus de 21 actuellement. Donc, peut-être qu'on est dans une meilleure position. Donc, les fondamentaux sont solides, l'emploi demeure bon. Oui, il y a eu, tu sais, des chiffres d'emploi moins solides que prévu. Donc, je ne veux pas dire que la situation s'améliore, mais la situation demeure favorable là, à la croissance pour l'instant.
Et première situation, donc on va rentrer dans nos
Ouais.
pratiques qu'on a entendues de quelques clients. Si le prix du pétrole grimpe, est-ce que ça va forcément faire dérailler l'économie?
Ben, la réponse, c'est forcément non, tu sais.
Oui.
Donc, tu sais, on a mentionné un peu plus tôt, tu sais, si ça reste très, très élevé pendant 2 ans, là, c'est peut-être qu'à un moment donné, ça va être un problème. On a eu un choc du pétrole dans les années 70, hein, l'embargo du pétrole. À ce moment-là, il faut se rappeler 2 choses. Le pétrole comptait pour un peu plus de 10% des dépenses des revenus des ménages, là. Donc, le revenu disponible des ménages, là, 10% de ça allait au pétrole. Aujourd'hui, on est à 5%. Donc, on a une moins grande proportion de nos revenus qui s'en va vers ça. Donc, on a moins de choc. Deuxièmement, la proportion du pétrole dans la consommation énergétique totale. Donc, en 70, là, 50% de l'énergie, c'était du pétrole. Le reste étant, bon, le charbon, de l'électricité, d'autres choses. Aujourd'hui, c'est 33%. Donc, tu sais, merci à l'énergie renouvelable, là, qui prend une plus grande part. Donc, tu sais, les chocs pétroliers demeure, mais l'impact est moindre et encore plus si jamais la durée est pas trop longue. Concernant la durée, ben, le marché des contrats à terme là, nous donne un peu le visuel sur le futur. Donc, un baril de pétrole pour livraison le mois prochain, ben, c'est 95$. Mais si je paye aujourd'hui mon baril pour livraison pour le recevoir juste en septembre, je le paye 81$. Si je le veux juste en décembre prochain, 75$. Donc, si je le veux en décembre 2027, le marché des contrats à terme indique à 68. 68, c'est le prix qu'on était il y a un mois. Donc, le marché déjà nous dit, on a un conflit, on s'attend à ce que ça dure quelques mois, mais pas éternellement. Donc, dans cette optique-là, le choc devrait pas forcément dérailler l'économie.
Puis une autre question que les clients pourraient avoir, je ne l'ai pas eue encore, mais puis tu as répondu, mais peut-être juste un peu nuancé. C'est quoi la situation qui nécessiterait, mettons si ça s'empire, que je fasse des changements à mon portefeuille?
Vraiment, si on a parlé de vos objectifs, là, tu sais, vous contrôlez vos objectifs s'il y a des changements, si vous, je sais pas, vous prenez votre retraite, puis là, vous avez un projet, vous achetez un chalet, peu importe, là. T'sais, ça, il faut bouger le portefeuille. On peut pas espérer que ça remonte, là. L'espoir, c'est pas une stratégie d'investissement, là. Donc, si on a des besoins qui changent, on doit modifier le portefeuille en fonction de ces besoins-là. Il faut le pire ennemi de l'investisseur, c'est les émotions. Si on réagit face à la peur, et l'être humain, notre cerveau, là, il est programmé depuis des milliers d'années que quand on est inconfortable, on veut changer quelque chose. On est incapable de juste demeurer immobile dans l'inconfort. Et ça, c'est contre-productif en investissement. Dans l'inconfort, c'est-à-dire quand on subit la volatilité, bien souvent, la meilleure transaction qu'on a à faire, c'est de ne pas en faire du tout. Donc, évitez là, de vouloir modifier le portefeuille en raison de cette part-là.
Puis nous, on est là pour vous aider avec cette partie-là.
Exact.
Peut-être avant de conclure, si les investisseurs ont à retenir un message aujourd'hui, ça serait lequel?
Gardez le cap. On est des investisseurs à long terme, hein? Donc selon, tu sais, le long terme est différent d'un investisseur à l'autre, là, mais il va de, tu sais, 3 à 5 ans jusqu'à 20, 30 ans, 40 ans. Donc il faut éviter de réagir sur des événements court terme quand nos objectifs demeurent à long terme. Il faut évidemment éviter les décisions impulsives. Puis nos portefeuilles, là, ils sont conçus pour traverser ces périodes-là. Donc, il ne faut pas essayer d'éviter la volatilité du marché. Il y a un prix à payer pour des rendements plus élevés qu'un CPG. Ce prix-là à payer, on ne peut pas l'éviter, c'est de tolérer la volatilité. Alors, ce n'est pas d'essayer de l'éviter en vendant avant, puis en rachetant plus tard, puis tout ça, c'est un petit peu essayer de tricher, puis ça ne marche jamais. Donc, il faut juste avoir un portefeuille bien diversifié, pas d'excès de conviction, pas de position là, trop grosse dans les portefeuilles. Puis oui, c'est peut-être que la valeur va baisser un petit peu. Puis on ne veut pas minimiser l'inconfort psychologique, là. Si vous avez 1 000 000 dans vos placements, puis ça baisse de 5 %, c'est 50 000 pareil, là. Donc
Oui.
c'est beaucoup d'argent, mais c'est juste 5 % aussi, puis ça va remonter, tu sais, probablement aussi rapidement que ça l'a baissé.
C'est ça, il faut se rappeler que tant qu'on n'a pas cristallisé la perte, c'est pas une perte.
Exact.
Donc, merci beaucoup, Martin, pour ton analyse. Toujours claire, toujours nuancée. Et merci à tout le monde pour votre écoute. Si vous voulez en discuter avec nous plus personnellement, si vos objectifs ont changé, notre équipe est là pour vous, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi. Nous sommes là pour vous accompagner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À l'écoute des investisseurs.